Nathalie Arthaud, bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle et sur ce siège se succèdent les candidats. Notre formule, vous la connaissez, vous serez interrogée en deux temps. Dans un premier temps, on va dire de la politique générale, votre positionnement sur l'échiquier politique, vos grandes idées si je puis dire. Avec André Sicodicola, merci d'être là, et Judith Weintraub, merci. Dans un deuxième temps, Gérard Leclerc et Denis Jambard nous rejoindront pour entrer dans le détail et vous challenger en quelque sorte, pardon pour cet effroyable mot, sur vos idées. Je me permets de vous poser la première question. Vous prenez aujourd'hui, et vous me contredirez si vous le souhaitez, un modèle trotskiste. Est-ce qu'il y a dans le monde un modèle qui peut vous inspirer, comme la plupart des candidats qui ont des références? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde un modèle social, économique, politique qui vous inspire?
Non. Non, non. Je pense que pour se faire une idée de ce que nous défendons, cette réorganisation effectivement de l'économie en profondeur que nous défendons, eh bien on peut imaginer une sorte d'immense service public, que le service public ne soit pas limité à ce que on en connaît aujourd'hui, l'éducation ou la santé, mais que ça soit aussi par exemple les transports, que ce soit aussi les banques, que ce soit aussi les chaînes de distribution, que ce soit aussi les entreprises. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'idée. Que l'on reprenne la maîtrise des moyens de production, de ce qui permet de produire toutes les richesses, voilà, et qu'on les organise et qu'on les mette en regard des besoins de la population. Aujourd'hui, c'est pas comme cela que cela marche. Vous savez très bien que effectivement, c'est propriété privée, que chaque grand actionnaire, que chaque grand groupe a un droit de vie ou de mort sur les entreprises, sur les usines. Ils peuvent déplacer leurs capitaux comme ils veulent, s'en servir d'ailleurs pour ne rien produire du tout, pour spéculer par exemple. Et surtout, c'est toujours un fonctionnement pour le profit pour quelques-uns, pour une minorité. Et c'est jamais en se souciant effectivement des intérêts de la collectivité.
Mais pour rebondir sur la question de Patrick, cette immense solitude, vous l'expliquez comment? C'est les autres, c'est l'œuf de Colomb, il fallait être le premier à y penser.
Mais je l'explique tout simplement que c'est une société qui est à construire, qui est à changer. Qu'est-ce que vous voulez?
Un monde, donc, pas une société.
Un monde, bien sûr, absolument. Et oui, moi je suis communiste révolutionnaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on fasse le bilan de cette société aujourd'hui qui fait des ravages quand même, y compris dans les pays les plus riches du monde. Vous savez, le capitalisme, c'est ça, c'est des millions de pauvres, y compris au sein même de ce qu'on nous présente comme la grande réussite de cette économie capitaliste. Donc il faut qu'on en fasse le bilan et qu'on se dise, mais quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société. On est capable de les construire, ces logements, on est capable de la fabriquer, cette nourriture qui permettrait aujourd'hui aux centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes qui meurent de faim, de survivre. Donc voilà, c'est effectivement vouloir changer la société. Alors bon, bah écoutez, peut-être que vous faites partie de ceux qui pensent que le capitalisme, c'est le modèle achevé et la loi du profit, de la propriété privée, ce sont des lois éternelles. Peut-être pensez-vous que ce soit des lois éternelles. Vous savez, moi, ça me fait penser à ces pharaons ou à ces rois qui croyaient effectivement gouverner indéfiniment et qui ont laissé place à de nouvelles sociétés. Moi, je crois que l'histoire de l'humanité n'est pas terminée.
Le constat que vous venez de faire, et puis lorsqu'on lit aussi votre programme, on constate quand même beaucoup de points extrêmement communs, pour pas dire le moins, avec par exemple le Front de Gauche et son candidat. Vous avez parlé, vous parlez dans votre programme d'augmentation des salaires, vous parlez de bloquer des moratoires sur les licenciements. Comment se fait-il que vous n'ayez pas rejoint ce clan du Front de Gauche, surtout lorsqu'on connaît maintenant, on voit un petit peu que les sondages ne vous sont pas du tout favorables?
Parce qu'en réalité, même si nous mettons en avant effectivement des revendications urgentes, essentielles et vitales pour les travailleurs que peuvent mettre en avant aussi les militants du Front de Gauche, nous ne sommes pas d'accord sur la façon de les imposer. Voilà. Pour nous, cela ne fait aucun doute qu'on ne peut pas l'attendre d'un futur gouvernement de gauche, y compris si au sein de ce gouvernement, il y a des ministres communistes ou des ministres du parti de gauche qui essaieraient de peser sur le gouvernement, vous savez.
C'est-à-dire, pour être très précis,
Jean-Luc Mélenchon.
Pas par les élections?
Jean-Luc Mélenchon...
C'est un système qui ne peut pas être imposé par les élections ?
Je termine mon raisonnement quand même, parce que je crois que j'ai un petit peu le temps. Jean-Luc Mélenchon explique qu'effectivement, il faut bien voter, etc. Mais avec quel gouvernement compte-t-il imposer le SMIC à 1700 euros dont il parle ? Eh bien, avec un gouvernement qui forcément sera dirigé par le Parti Socialiste. Et moi, je ne crois pas une seconde que ce gouvernement-là l'imposera au patronat. Je n'y crois pas une seconde. Donc je pense effectivement que ce n'est pas par un changement de gouvernement, hein, et seulement par un changement de gouvernement, que les travailleurs réussiront à obtenir des augmentations de salaire, réussiront à empêcher cette vague de licenciements, cette hémorragie de fermeture d'usines, que ça va dépendre d'autres choses, d'un rapport de force, parce qu'il faudra l'imposer, il faudra contraindre le patronat à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire.
Si vous récusez les élections, pourquoi est-ce que vous vous présentez ?
C'est plus compliqué que cela, vous savez, je ne récuse pas les élections, et je pense d'ailleurs que les élections, y compris dans les mouvements de grève, dans les mobilisations, c'est très important. Pourtant, il y en a tous les jours et moi je suis absolument pour que les gens s'expriment. D'ailleurs, je pense que c'est la chose la plus essentielle que l'on peut faire dans cette élection, s'exprimer. C'est pour cela que je participe à cette élection. Et en même temps, je dirais que oui, les élections et les changements de gouvernement et les alternances gouvernementales n'ont jamais changé la vie des travailleurs et n'ont jamais changé en profondeur la société. Et que y compris les petites avancées, les congés payés ou les acquis, hein, ce qu'on appelle les acquis sociaux qui sont... jamais acquis en réalité, et ça on le voit bien depuis plusieurs années, eh bien ils ont toujours été arrachés au patronat par des luttes et par des mobilisations, jamais simplement en glissant un bulletin dans l'urne. Mais on peut s'exprimer, et nous comptons bien le faire justement.
Certes, mais vous faites référence y compris à l'histoire, donc en 1936, il a bien fallu qu'il y ait cette union réalisée, pour qu'ensuite il y ait ces avancées sociales dont vous parlez qui sont très 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 importantes. On voit bien que l'union, quand même, a toujours marqué du côté de la gauche, même en 1981, a toujours été le préalable à ces changements que vous évoquez à l'instant. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous semblez mettre un veto quand il s'agit d'élections au niveau des conséquences qu'elles peuvent avoir au niveau gouvernemental, mais... dans le même temps, vous participez à à la gestion de municipalités dans lesquelles, notamment vous, à Vaux-en-Velin, dans lesquelles on retrouve à la fois des socialistes, à la fois des gens du Front de Gauche, du Parti communiste, etc.
Réponse
il
n'y
a pas de contradiction là.
Vous savez, enfin, vous faites comme...
accepter d'un côté et refuser de l'autre.
Je pense que la différence entre la gestion municipale, hein, des affaires municipales et la gestion des affaires de la bourgeoisie. Et l'appareil d'État, l'État et les gouvernements, c'est bien sûr la gestion des affaires de la bourgeoisie. Regardez d'ailleurs dans cette campagne électorale, tout le monde se pose la question de comment faut-il faire prospérer hein, les affaires de la bourgeoisie, que les capitalistes s'en sortent bien, français bien sûr. Tout le monde se place de ce point de vue-là. Hein. Comment faut-il faire pour que la croissance revienne, pour que les profits soient importants, etc. Bon, c'est ça, aujourd'hui, gouverner à la tête de l'État. Justement, c'est pas dans ce camp-là que nous sommes. Nous sommes pas des candidats à la gestion des affaires des plus riches, des capitalistes. Nous disons, les travailleurs ont des revendications à faire entendre, ont des mesures à imposer, et cela, ils devront les imposer par en bas, en réalité. Vous parlez de mai-juin 36, mais moi, je suis désolée, les congés payés n'étaient pas justement dans ce programme du Front Populaire, parce que tellement, effectivement, il fallait faire l'unité, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était le plus petit des dénominateurs communs. Et ces congés payés n'étaient pas inscrits au programme du Front Populaire.
Si la droite l'avait emporté en 1936, est-ce que vous pensez qu'on aurait eu les congés payés après ?
Complètement. Absolument. Parce qu'en réalité, vous savez... Mais bien sûr ! Pourquoi ? Ah, je.
Bah,
je
suis déçu.
C'est parfait.
Je suis pas déçu. Si vous voulez, on ne refait pas l'histoire.
Mais je constate... peux m'expliquer justement. Justement, parce qu'en réalité, que s'est-il passé en mai-juin 36 ? C'est que c'est le patronat qui a convoqué les syndicats, qui a convoqué le gouvernement en disant il faut que ça s'arrête, cette grève générale. Il faut que ces occupations d'usines s'arrêtent. Il faut qu'on trouve quelque chose pour remettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est en train de nous échapper. Et que finalement, ce qui se passe est une situation tellement imprévisible qu'il faut absolument y mettre un coup d'arrêt. Et ce sont eux, ce sont les patrons qui ont mis sur la table justement cette avancée qui était importante. J'imagine que quelques mois plus tôt, ils n'y pensaient même pas une seconde, pouvoir payer les ouvriers pour partir en vacances. Je pense que ça faisait pas partie de leur univers mental.
Eh bien,
c'est la grève et les mobilisations qui l'ont introduit dans leur tête, cela. Et je peux vous dire que, bien sûr, c'était ce qu'ils voulaient, hein, ce grand patronat qui a le pouvoir, et tout gouvernement l'aurait bien sûr fait sur leur demande.
Judith, une minute.
Toujours dans un but de clarification, donc vous êtes pour un changement politique absolument radical, qui n'a rien à voir avec le système que nous connaissons, que le monde entier connaît. Est-ce que vous êtes aussi pour une organisation de la production où il n'y ait pas de patrons et de salariés ?
Absolument. Moi, je suis communiste révolutionnaire, donc moi, je suis pour une pour
la révolution, que le patron n'a rien
pour la
à
révolution
faire dans...
sociale et pas citoyenne, pour la révolution sociale, c'est-à-dire pour une société sans classe sociale, sans exploitation. Et autant je pense qu'il faut bien sûr organiser, qu'il faut bien sûr des coordinateurs, qu'il faut bien sûr des dirigeants. Mais attention, écoute, mais vous savez, un chef d'orchestre. Il faut un chef d'orchestre.
Oui, mais c'est rarement le premier violon un jour, la batterie le deuxième et le triangle le troisième.
Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est pas pour autant que le chef d'orchestre est obligé de décider des morceaux que l'on joue, n'est-ce pas ? Et moi, c'est cela que je veux. Je pense qu'il faut que ce soit les travailleurs, collectivement, démocratiquement, qui décidions de qu'est-ce qu'on produit, comment nous le produisons, pourquoi, voilà. Et que, évidemment, avec ces objectifs-là, il faut que qu'on s'organise et qu'on fasse que les choses... Écoutez, aujourd'hui, les conseils d'administration, c'est eux qui fixent aux dirigeants les objectifs. Alors, il faut qu'ils fassent du 12, du 13, du 14%. Ben, moi, j'imagine que ces conseils d'administration, ben, ça soit l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la population qui donne les objectifs. Et évidemment, il faudra des coordinateurs, des dirigeants, si vous voulez, pour les appliquer.
Et il faut un chef d'orchestre.
Ça sera pas pour une minorité.
Et moi, je suis le chef d'orchestre ici. Donc, je dis qu'on en termine avec cette première salve de questions. Merci à vous deux. Je vous retrouve tout à l'heure donc avec nos éditorialistes. Vous cédez la place dans quelques secondes à Gérard Leclerc et Denis Jambard. À tout de suite, merci. Voilà, Nathalie Arthaud a souligné qu'ici elle avait le temps de s'exprimer et j'en suis ravi puisque c'est aussi le principe de cette émission que de donner du temps au temps et de ne pas survoler les choses. Nous allons rentrer peut-être maintenant dans le détail de vos mesures. Alors Nathalie Arthaud, lorsqu'on a préparé cette émission, je me suis dit qu'il y avait une petite différence avec vous par rapport aux autres candidats, c'est que les autres candidats on les challenge, entre guillemets, j'ai encore ce mot épouvantable qui arrive. On les confronte, oui, je préfère, cher Gérard. À leur programme électoral, et vous, quand je lis votre programme, en préparant cette émission, je lis en préambule, attention, ce n'est pas un programme électoral, c'est un programme de lutte. Expliquez-moi.
Eh bien oui, parce que nous, quand nous disons qu'il faut effectivement... interdire les licenciements, qu'il faut arrêter cette hémorragie de fermeture d'usines et de licenciements. Quand nous disons qu'il faut augmenter les salaires, que à moins de 1 700 euros, il est difficile de vivre et qu'il faut que les salaires augmentent au même rythme que l'inflation. Quand nous disons que les travailleurs devraient pouvoir contrôler ce qui se passe, les décisions prises dans les entreprises, les finances des entreprises, nous sommes bien convaincus que ça, il faudra l'imposer. Il faudra contraindre ceux qui dirigent aujourd'hui
vous
l'économie.
Vous employez souvent ce mot, il ne faut pas proposer, il faut imposer. Vous imposez
exactement.
Comment ? Par la lutte...
Justement, oui, bien sûr, par la force sociale, par la lutte collective. De la même façon, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous savez, les congés payés qu'on considère comme quelque chose d'évident et de naturel, il a fallu encore une force sociale mobilisée qui a contraint le patronat à prendre sur ses profits, une partie de ses profits pour assurer cela. Donc, oui, c'est la réalité. Et que tous ceux qui, effectivement, font des listes de promesses en expliquant qu'ils feront ci, qu'ils feront cela, ne disent jamais comment ils vont aller chercher l'argent. Comment ils vont obliger, effectivement, les plus riches et puis ceux qui confisquent, justement, les richesses, eh bien, à en rendre un petit peu. Comment vont-ils faire ? Jamais ils ne le disent. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'une fois qu'ils sont au gouvernement, eh bien finalement ils renient, ils s'assoient sur toutes leurs promesses.
Donc effectivement, vous le dites, pas de programme véritablement réalisable dans le cadre d'une élection, et en même temps vous avez des propositions précises, par exemple contre le chômage, vous dites qu'il faut interdire les licenciements. Concrètement, comment on fait ? Vous avez une entreprise qui est en difficulté, parce qu'elle n'est plus compétitive, etc. Vous dites, non, vous allez continuer, on ne supprime aucun emploi.
Vous savez, vous pouvez prendre toutes les entreprises qui licencient aujourd'hui. Toutes, d'ArcelorMittal jusqu'à Le Jabi, en passant par cette usine d'Albany de tissage, en passant par le groupe Lohmann Brochet qui ferme une usine, Sodi Medical. Enfin bon, vous pouvez pas tous les prendre. Ils ne sont pas au bord de la faillite.
Il y a des entreprises qui sont en difficulté.
Qu'est-ce que ça veut dire être en difficulté ? Vous voyez, par exemple, PSA explique, Peugeot, Citroën explique qu'ils sont en difficulté parce qu'ils ont réalisé cette année qu'un demi-milliard de bénéfices. C'est que l'année dernière, ils en avaient effectivement réalisé plus d'un et qu'ils avaient battu un record de vente. Donc, ils sont en difficulté, disent-ils. Ils pleurent la bouche ouverte. hein, tous ces grands groupes, parce que moi j'appelle pas ça des difficultés.
Les grands groupes en France, vous avez beaucoup d'entreprises moyennes qui ont 200, 300 salariés. Là aussi, on interdit les licenciements et on augmente tous les salaires comme vous le proposez.
Moi, je suis révoltée, si vous voulez, de voir que ce sont des groupes qui sont milliardaires, qui trouvent de quoi assurer leurs dividendes aux actionnaires, qui trouvent même de quoi augmenter les rémunérations des PDG.
Mais il n'y a pas que des très grands groupes dans l'économie française.
Ce sont ces grands groupes qui licencient, y compris aujourd'hui. Et il faut faire quand même quelque chose. Alors moi, je veux bien qu'on parle des autres groupes, hein, des PME, mais vous savez, y compris dans ces PME, on peut les prendre toutes les unes après les autres, elles sont dépendantes de ces grands groupes, soit des filiales, soit elles sont sous-traitantes, soit c'est leur client principal. Je pense aux fonderies du Poitou, par exemple, hein, dont on nous disait que, oui, effectivement, ils ont des difficultés, mais c'est Renault, c'est PSA, c'est ces grands groupes qui compriment leurs marges et qui les mettent dans les difficultés. Donc nous sommes effectivement pour interdire les licenciements, parce que le problème, c'est de ne pas mettre en difficulté et de ne pas empêcher de vivre des millions de travailleurs, parce que quand on leur enlève leur emploi, si vous voulez, on leur enlève tout. Pourquoi accepterions-nous? Pourquoi dirions-nous? On ne peut pas mettre en difficulté les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a une petite baisse de profit, une petite baisse de taux de rentabilité, et pourquoi accepter toujours que les travailleurs se retrouvent mis sur le carreau, poussés au chômage, poussés à la misère? Jamais on se pose la question de savoir comment vont-ils vivre. Alors, comment vont-ils faire vivre leur famille? Jamais. C'est quelque chose de naturel. Ils se débrouilleront. Avec les restaurants du cœur, ils se débrouilleront pour payer leur loyer. C'est toujours comme ça.
L'une de vos propositions pour faire face à ces profits, c'est vous utilisez cette expression, exproprier la grande bourgeoisie. Comment vous faites concrètement? D'autant que ce n'est pas conciliable avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme sur le droit de propriété. Comment vous faites?
Non, mais si vous voulez, le droit de propriété, vous voyez, c'est toujours pareil. Le droit de propriété, il est assuré à ces gens-là. Il est assuré. Et ils sont protégés par la loi de toutes les façons possibles.
Comment on exproprie la grande bourgeoisie aujourd'hui en France?
Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le droit de propriété des travailleurs, mais c'est-à-dire, attention, leur maison, leur voiture, leur droit de nourrir et de payer des études à leurs enfants n'est pas garanti, jamais garanti ce droit-là. Donc moi, je prends le problème par ce bout-là. Qu'est-ce qui est nécessaire? De quoi les travailleurs ont-ils besoin aujourd'hui? Eh bien, ils ont besoin chacun d'un emploi et chacun d'un salaire qui lui permet de vivre. Et tous ces groupes-là, ils ont bien sûr l'argent, tout simplement parce que d'abord, ils font travailler des milliers
comment
de travailleurs.
Comment prenez-vous
cet argent? On les oblige. Et on les contraint.
Voilà. C'est-à-dire, on fait quoi concrètement?
À préserver les
emplois. C'est l'État qui reprend les
d'abord,
actions.
D'abord, cette interdiction des licenciements.
Vous les remboursez pas? Vous les indemnisez pas dans l'expropriation? Comment vous
d'abord,
faites concrètement?
Cette interdiction des licenciements, ça pourrait être une loi. Dans cette période de crise.
C'est pas du tout la question.
C'est pas ma question. Ma question, c'est l'expropriation de la grande bourgeoisie.
Non, mais justement, moi, mon programme, c'est l'interdiction des licenciements aujourd'hui. Donc parlons de mon programme.
C'est dans votre programme, ça, vous le dites clairement
alors,
au début.
Non,
il faut exproprier
attendez,
la grande bourgeoisie.
De lutte,
je l'ai lu du début à la fin.
Eh bien, écoutez, moi, je. Ce
vous
que
l'avez écrit sur votre site, voilà.
Mais oui, mais il faut comprendre la logique de notre raisonnement. Et la logique de notre raisonnement, c'est qu'effectivement, il faut prendre aujourd'hui une loi pour interdire les licenciements, de la même façon qu'on est capable, en période d'hiver, d'interdire les expulsions locatives. De la même façon qu'on est capable de prendre des mesures exceptionnelles, comme interdire les coupures d'électricité, que ça devrait être pris dans une loi. Maintenant, quand on nous dit, mais s'ils ne veulent pas, s'ils ne le font pas, s'ils ne respectent pas la loi, que faut-il faire? Eh bien, nous sommes prêts, effectivement, au bras de fer.
D'accord.
Et nous sommes prêts à aller jusqu'à les exproprier. Donc oui, je revendique ce que vous m'opposez.
Ce que vous écrivez.
Absolument. Mais il faut quand même en comprendre la logique.
D'accord.
Hein. Et la logique, c'est effectivement qu'aujourd'hui, il y a des mesures urgentes à prendre. C'est l'interdiction des licenciements, c'est augmenter les salaires, c'est aussi imposer la transparence sur les entreprises de façon justement à ce qu'on puisse voir ce qu'elles ont dans les caisses ou ce qu'elles n'ont pas. Hein. Combien
et s'il n'y a rien dans les caisses, qu'est-ce qu'on fait? Si effectivement elles sont en difficulté, parce qu'il y a quand même des entreprises, c'est un corps vivant, il y en a qui naissent, d'autres qui meurent, etc. Une entreprise, on a connu y compris des grandes entreprises qui ont disparu. Qu'est-ce que vous faites si une entreprise, effectivement, si les comptes révèlent qu'elle est en difficulté?
Alors, si les comptes révèlent qu'elle est en difficulté, d'abord on regarde pourquoi, qui a y compris accumulé l'argent les années passées, les profits passés.
C'est peut-être parce que les profits ne sont pas bons aussi, parce qu'ils n'ont pas suffisamment innové, elle s'est trompée.
Nous sommes que dans tous les cas, si les profits présents ne suffisent pas, eh bien, qu'on prenne sur les profits passés, y compris sur les fortunes privées accumulées dans le passé, pour sauver la vie des travailleurs, pour leur permettre de continuer d'avoir une vie digne et de ne pas être poussés dans les misères. C'est la même logique, effectivement, pour que les travailleurs, eux, ne soit pas exproprié.
Alors, vous employez beaucoup, comme Arlette Laguiller, le mot travailleur.
Ah, moi, j'avais pas employé le mot Arlette Laguiller parce que je pense que. C'est important. Je pense que Nathalie Arthaud est une candidate et
mais
je pense que c'est agaçant.
Je
toujours comparer.
Simplement, ce qui est logique, d'ailleurs, que j'emploie les mêmes.
Exactement.
Simplement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce mot travailleur, qu'est-ce que vous mettez? Est-ce qu'un cadre dirigeant qui travaille 40-50 heures par semaine est un travailleur?
Alors, il n'est pas.
Est-ce que un petit commerçant est un travailleur?
Absolument, et je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les quatre dirigeants qui travaillent 45 à 50 heures par semaine.
C'est pas le problème. Ah,
voilà.
Non,
mais, donc, parce qu'il n'y a pas les ouvriers, si vous voulez, qui font leurs 35 heures, et puis ceux qui passent leur vie au travail. C'est
alors,
pas vrai, parce que les ouvriers, ils passent aussi leur vie au boulot.
Et qu'est-ce qui n'est pas un travail? Qui n'est pas un travailleur?
Alors, c'est très simple. Vous savez, y compris les petits exploitants, c'est des travailleurs de la terre. Mais vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Vous disiez que, effectivement, dans tout ce qu'on écrivait, l'international explique le grand parti des travailleurs, des ouvriers et des paysans. Vous voyez, donc effectivement, y compris un artisan, y compris un commerçant qui travaille avec son salarié, souvent ils en ont
donc
un.
Donc les travailleurs, c'est quoi? C'est 95% de la population?
Oui, absolument, c'est quand on doit.
Et ils sont exclus, ne sont pas travailleurs? Uniquement les rentiers.
Ceux qui travaillent, qui vivent justement du travail d'autrui, ceux qui vivent de l'exploitation. Un travailleur, c'est quelqu'un qui doit vendre sa force de travail, son intelligence, pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir un salaire.
La politique de salaire, c'est
tout simplement. Alors, je fais la différence, vous savez, entre les cadres de L'Oréal et Madame Bettencourt. Madame Bettencourt qui, en 2012, va quand même toucher 360 millions. Vous rendez-vous compte, 360 millions de dividendes. Elle n'a pas mis un pied, y compris dans les conseils d'administration. Hein, elle n'a rien fait, elle est intervenue pour rien dans cet immense groupe qui est L'Oréal. Et elle va quand même toucher 1 million par jour. Elle gagne au loto tous les jours. Elle est sûre en plus de gagner, si vous voulez, elle n'a même pas besoin de gratter. Ça tombe tous les jours.
Vous avez une proposition qui est 1700 euros net par jour.
Oui.
Je pense que
par mois.
Non, par mois, tout le monde pourrait être d'accord avec ça, sauf que tout le monde considère ça comme irréaliste, vu le monde dans lequel nous sommes, la compétition internationale. Et on a l'impression que vous avez un programme qui ignore complètement l'environnement dans lequel nous vivons.
Que voulez-vous que je vous dise?
Comment vous pouvez défendre, naturellement, c'est généreux, tout le monde peut être d'accord. Et d'ailleurs, personne ne vous suit, parce que quand on voit vos résultats électoraux depuis des années, eh bien, vous restez entre 1 et 2%. Il y a eu deux moments exceptionnels, 1995 et 2002.
Et je ne sais pas combien il vous faut, vous, pour vivre. Je ne sais pas.
Mais tout le monde est d'accord là-dessus.
Mais ce que je sais, c'est que c'est irréaliste de dire aujourd'hui à des familles de vivre avec moins de 1700 euros et que ça veut dire, et on est au 21e siècle, c'est ça le réalisme, c'est une économie qui est pas capable de nourrir correctement ces travailleurs, ceux qui font tourner toute la société. Alors moi je sais bien que ce réalisme-là conduit, y compris des groupes, à exploiter des richesses dans le monde au milieu des guerres, au milieu des guerres ethniques, au milieu d'une violence sans fin, et que ça c'est tout à fait réaliste. Et bien moi ce réalisme-là je le refuse, je suis désolée. Mais une société qui n'est pas capable de faire vivre dignement ceux qui la font tourner, c'est une société
qui est capable.
Tout le monde est très fier de cette économie, de toutes les richesses qu'on est capable de produire. Et on est en train de nous dire qu'on ne peut plus assurer les retraites, qu'on n'est plus capable d'assurer l'éducation qu'on assurait il y a 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je crois au contraire, et la réalité, c'est que les richesses, elles s'accumulent dans la société. C'est que le progrès, il continue. Mais il est confisqué, il est que pour une petite minorité. Et vous me dites que c'est pas réaliste, mais ils ont trouvé de quoi augmenter leur salaire.
Tous les régimes qui ont voulu rendre le pouvoir aux classes les plus défavorisées ont terminé en dictature.
Mais vous n'avez pas besoin de dire tous, il n'y en a eu qu'un. Une seule expérience a été en Union soviétique, ça a été la révolution.
La Chine, ça n'est pas. Cuba, ça n'est pas une.
Eh bien, vous connaissez pas suffisamment, y compris le courant communiste révolutionnaire que nous incarnons, parce que non, pour nous, il y a eu une seule tentative, effectivement, pour les travailleurs de prendre le pouvoir et de diriger la société, c'était en Union soviétique, une seule. Vous savez le.
Et qu'est-ce qui a dérapé alors? Et pourquoi ça ne marcherait aujourd'hui alors que ça n'a pas marché hier?
Effectivement, je peux expliquer. Enfin, en tout cas. Donner mon explication. Moi, je pense qu'effectivement, le problème, si vous voulez, c'est resté à l'échelle d'un seul pays qui a dû affronter, y compris l'hostilité des puissances riches et impérialistes du monde entier. Un pays qui était où il a tout fallu faire, industrialiser, développer l'économie. Enfin, je vous rappelle quand même la situation de l'économie russe, tsariste, hein, où bien des zones de ce pays-là étaient encore au Moyen-Âge. Donc, tout ça, effectivement. Alors, après ça, vous allez me dire, bah voyez, ça marche pas. Mais moi, je vous dis que il y a, je sais pas, 185 pays enregistrés à l'ONU, c'est ça, hein. Et le capitalisme s'est répandu dans tous ces pays. A eu effectivement 2 siècles pour montrer que bah, finalement, il marchait très bien, qu'il était capable de développer le monde. Et ce qu'on peut constater, c'est que non, il ne marche pas.
C'est une faillite.
C'est une faillite en Inde, c'est une faillite au Zimbabwe, c'est une faillite en Haïti, le capitalisme, et même dans les pays les plus riches. Donc moi, ça me convainc pas.
J'en viens quand même sur cette question. Vous existez depuis plus de 60 ans, vous ne décollez pas de 1 ou 2% dans les élections, et en même temps les conquêtes sociales qu'il y a eu depuis cette période-là, que vous défendez, ont toujours été donc effectuées par des gouvernements, d'ailleurs parfois par le général de Gaulle avec la sécurité sociale, par la gauche avec la retraite à 60 ans, avec les 35 heures, etc. Donc vous défendez ces conquêtes bec et ongle, sans jamais y avoir participé, et avec un courant en votre faveur qui ne progresse pas. Est-ce que ça vous interpelle pas ?
Ah ben là, vous faites complètement fausse route quand vous dites sans jamais y avoir participé, c'est tout le contraire. Ah
ben vous n'avez jamais, d'ailleurs c'est votre marque de fabrique, vous n'appelez jamais à voter au second tour pour la gauche, je ne parle pas de la droite, mais en tout cas pour la gauche, et vous défendez, je répète, les 35 heures, la sécurité sociale, la retraite à 60 ans.
Mais il y a une chose que vous n'êtes apparemment pas en mesure de comprendre, c'est que c'est mais oui, je suis désolée, mais... c'est que justement ces avancées-là n'ont pas été données par des gouvernements. Elles ont été conquises. Elles ont été conquises par la pression.
Qui d'ailleurs est contestée. Les 35 heures, c'est Lionel Jospin, ça a été très contesté. Et c'est un choix qu'il a fait du gouvernement. C'est pas du tout ouvrière qui l'a imposé.
Je vous ai remarqué que les 35 heures, je l'ai pas justement mise dans le cadre des grandes conquêtes sociales.
Alors la retraite à 60 ans.
Parce qu'en réalité, ça n'était pas une. Hein, je veux pas développer là-dessus, mais ce que je tiens à dire, c'est que ce ne sont jamais les gouvernements. Jamais les gouvernements qui ont donné aux travailleurs des avancées. Ça a toujours été une pression sociale, ça a toujours été des mobilisations, des grèves puissantes. Et c'est dans ces moments-là que les travailleurs ont fait avancer leur sort. C'est dans ces moments-là. Vous pouvez prendre toutes les grandes avancées sociales, ça a toujours été à l'origine des mobilisations, des luttes, dans lesquelles, évidemment, nous y étions. Et justement, nous sommes de ce courant-là qui... Nous sommes, nous nous revendiquons de ces générations de femmes et d'hommes qui ont lutté, qui se sont mobilisés, qui ont fait pression par en bas
et
qui ont justement
été entre les candidats. Il nous reste 30 secondes.
Qui ont justement été la force motrice de tous ces progrès sociaux, et que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, quand il y a eu ces mobilisations-là, et c'était vrai aussi sous De Gaulle. Eh bien, ils ont dû effectivement les mettre en œuvre.
Vous prenez la révolte sociale plutôt que l'élection. Au fond, c'est une
candidature. La révolte consciente, avec une politique, justement, avec un programme,
mais comment
un programme de lutte.
Alors que dans ce pays, et ça va contre tout ce que vous dites, il y a de moins en moins de grèves.
Mais ça reviendra, figurez-vous, parce que on sera forcé de se battre, de revendiquer notre droit, parce que on voit bien qu'on est condamné, sinon, à reculer toujours et encore.
Nathalie Arthaud, je vous remercie.
Merci.
On a le temps de s'exprimer dans cette émission. Et on ne coupe pas trop la parole, contrairement à d'autres. Merci Nathalie Arthaud de nous avoir rendu visite.
Merci.
Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque nos éditorialistes vont nous rejoindre. Je vous souhaite une belle journée. Merci.
Merci.